J'ai rendez-vous avec vous, une émission de la communauté des radios publiques de langue française.
Une moustache, une guitare, voici l'enfant terrible de la chanson, Georges Brassens.
J'ai quand même l'impression de bien ressembler à mes chansons. Je crois, oui. Je ne suis pas tout à fait l'ours qu'on annonce à l'affiche, évidemment, mais il y a quand même un peu de vrai là-dedans.
Une émission proposée par Fabienne Chauvière, réalisée par Marie-Annick Rimbaud.
Poète, prends ton luth, Georges Brassens, ramassez votre guitare, c'est à vous.
Et c'est parce que les autres ne chantaient pas mes chansons que je me suis mise à les chanter. On m'a amené un jour chez Patachou.
À contre-cœur?
À contre-cœur, non, mais j'avais déjà 30 ans à ce moment-là. À 30 ans, c'est difficile quand même d'aller en scène, de demander aux gens leur avis. Il faut commencer très jeune, cette plaisanterie, là. Parce qu'à 30 ans, on a quand même un sens de la dignité plus développé. Enfin, j'avais un peu, ça me gênait un peu d'aller en scène.
Après des années de vache maigre et d'anonymat à Paris, en 1952, Georges est devenu Brassens. C'est un petit groupe d'amis qui a poussé Georges Brassens sur la scène d'un cabaret installé dans les murs d'une ancienne pâtisserie à Montmartre. La maîtresse des lieux s'appelle Patachou. Dans cette émission, vous allez découvrir comment cette jeune femme à la mode au début des années 50 a cru en cet homme étrange et chevelu qu'était Brassens. Grâce aux merveilles de nos archives, vous aurez les témoignages aussi de Pierre Nicolas, son accompagnateur, de Jacques Brel, qui a débuté à la même époque, de Jacques Canetti, qui accueillait et encourageait les jeunes talents dans la salle mythique des Trois Baudets. Vous entendrez également Françoise Giroux, qui était critique de spectacle dans les années 50, et Fred Mella, des Compagnons de la chanson. Voici donc la véritable histoire des débuts de Georges Brassens.
Eh bien, voici venir maintenant Georges Brassens, qui va vous chanter quelques-unes de ses chansons. Voici Georges Brassens.
Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'angevin. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change parmi. Chemin faisant, que ce fut tendre, d'où ira deux le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change parmi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change parmi.
Victor Laville, ami de Georges Brassens.
Il était amer parce que ça accrochait pas. Chaque mercredi, on faisait le rapport. Qu'est-ce que t'as fait?
Je disais, elle me disait, bah, tu sais, je suis allé, c'est une boîte, je suis passé recommandé par un tel, mais il me dit, les gens s'en foutent, il me dit, moi je passe après le spectacle, quand les gens ont fait leur numéro, les gens dansent, bouffent, ils s'occupent même pas de ce que je raconte, voilà, alors... Et au bout de quelques mois, j'ai vu que ça décrochait, il était à deux doigts de... on peut pas dire d'abandonner, parce qu'il a, je pense qu'il aimait trop la poésie et la chanson pour abandonner, mais de se laisser aller, vous voyez, de ne pas accrocher dans Paris. Par relation, je connaissais un éditeur de musique auquel je l'ai envoyé, et qui n'y a pas cru, et qui s'en est mordu les doigts, je peux vous le dire. Hein.
Georges Brassens, 1970.
Je pensais, du moins quand j'ai commencé à faire des chansons, à les donner à d'autres. Et le jour où il s'est agi pour moi de les montrer directement, une espèce de pudeur, une espèce peut-être d'orgueil aussi démesuré, a fait que... J'avais peur que le public n'aime pas ce que je faisais, j'avais peur. Vous savez, j'ai débuté dans les cabarets, et le public de cabaret n'est pas toujours, si vous voulez, comment dire ça, n'est pas toujours très réceptif. Mmh. Et, enfin, même si une chose représente a une petite importance, une petite valeur, il ne le voit pas forcément tout de suite.
Oui.
Alors, quand on est imbu de sa personne, comme je l'étais à mes débuts, et quand on suit la prétention par tous les ports, on a honte.
Victor Laville.
Il y a eu dans Match un sujet sur Patachou. Et je l'ai vu. Et c'est pour ça qu'un jour, je lui ai dit, sans doute, je lui ai dit, mais écoute, genre, il y a une fille à Paris qui chante, là, qui était très connue, forcément. Je lui ai dit, tu la connais, Patachou, etc., qui a une boîte à Montmartre. Elle est très avant-garde. Elle rentre dans le chou. Elle bouscule tout le monde. Elle bouscule même la chanson. Pourquoi ça ne marcherait pas avec elle ? Oh, fou, il m'a dit, qu'est-ce que tu crois? Il m'a dit, c'est comme les ordres, fais ce que tu veux, je m'en fous. Au journal, on avait un gars qui s'occupait des relations à Paris, qui était Pierre Galante, qui plus tard épousera Olivia de la Vilande, l'actrice. Et j'ai dit à Pierre, j'ai un copain qui est formidable, qui fait de la chanson, voilà, qui s'arrive pas, ça marche pas. Alors j'ai dit, je pense à Patachou. Alors ça s'est fait en 10 minutes, c'est là que c'est fantastique. Dans mon bureau, il prend le téléphone. 3 minutes après, il a Patachou au bout du fil, qui répond, il lui explique, elle lui dit, écoute, viens la semaine prochaine, un soir, je crois un mercredi ou un jeudi, amène ton gars, on va voir.
Jamais sur terre il n'y eut d'amoureux, plus aveugle que moi dans tous les âges, mais faut dire que je m'étais crevé les yeux. En regardant de trop près son corsage, une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Le ciel avait pourvu des 1000 appâts, qui vous font prendre feu dès qu'on y touche. La navette, tant que je ne savais pas, ne savait plus où donner de la bouche. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Elle n'avait pas de tête, elle n'avait pas l'esprit beaucoup plus grand qu'un dé à coudre. Mais pour l'amour, on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Puis un jour elle a pris la clé des champs, en me laissant à l'âme un mal funeste, et toutes les herbes de la Saint-Jean n'ont pas pu me guérir de cette peste. Je lui en ai bien voulu, mais à présent j'ai plus de rancune et mon cœur lui pardonne d'avoir mis mon cœur à feu et à sang pour qu'il ne puisse plus servir à personne. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur.
Victor Laville.
Alors donc, Ce soir-là, je ne sais plus si c'est un mercredi ou jeudi, peu importe. On est monté dans à 11h du soir. Il y avait Roger Théron, un match, qui était encore un Sétois qui travaillait avec moi, qui s'était joint à notre petite équipe. Non, il y avait Roger Théron, il y avait Pierre Galante, Georges et moi. On est monté sur la butte, il faisait nuit, il faisait froid. Et devant la porte de Patachou, je ne voulais pas rentrer. Enfin, il hésitait, il faisait oh, oh, oh. Il m'a montré sa guitare, il m'a dit, tu te rends compte, j'ai l'air d'un con avec ça en rentrant. Je lui ai dit, donne-la moi. On est allé s'asseoir dans un coin, il y a eu le tour de chant de Patachou, etc. Mais ce qui a été inouï, c'est que Patachou a annoncé ensuite que son tour de chant était terminé, il était peut-être, je sais pas, 1h du matin, et elle a dit, écoutez, il y a un garçon qui est venu ici ce soir pour me chanter des chansons pour moi. Alors, ceux qui veulent rester, restent, vous êtes mes invités, et ceux que ça n'intéresse pas peuvent partir. Et il est monté sur la petite scène, il m'a donné son cahier. Il était en sueur, en nage, il ne savait plus où il était. Il me regarde et me dit, laquelle? Alors, j'ai vu le cahier, je lui dis, la mauvaise réputation. Et Patachou, qui était à mon côté, se tourne vers moi et me dit, mais il en a beaucoup comme ça. Et je lui dis, oh, il y a un cahier, il y en a, je ne sais pas, 50, 60, je ne sais plus combien dedans. Mais lui, ce n'est pas possible. Et Patachou lui dit, écoutez, c'est formidable ce que vous faites. Demain, vous venez chez moi. Alors, le lendemain, à 4h, on se retrouve, Georges et moi, chez Patachou. Elle avait fait un goûter. Elle dit, genre, mon vieux, maintenant, quand vous voulez, vous chantez ici. Hein, elle lui a dit. Elle lui dit, mais moi, je ne veux pas chanter, moi, je ne veux pas chanter. Elle lui a dit, écoute, j'ai une tournée en Belgique qui se prépare pendant une quinzaine de jours. Tu viendras, ça va te dégrossir, je te donnerai quelques tuyaux, quelques conseils, et tu vas voir que ça va marcher.
Georges Brassens, 1970.
Je suis resté une douzaine d'années à Paris sans avoir aucun contact avec le public, sans même essayer d'avoir des contacts avec le public. Et puis brusquement, du jour au lendemain, j'ai eu, c'est de là que vient cette espèce de hantise que j'avais du public. Je n'étais pas préparé à l'idée d'être du jour au lendemain jeté, non pas en pâture parce que j'étais capable de me défendre, mais enfin d'être exhibé.
Vous voulez pas, non? Ah bon, bon. Bon. Alors, l'armée du salut, c'est chiant.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant, dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds. Ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues, sur un de ces fameux bancs, qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Pierre Nicolas, l'accompagnateur de Georges Brassens.
J'accompagnais Patachou à cette époque-là, c'était en février 52. J'accompagnais déjà Patachou depuis 2 ans dans son cabaret. Et puis un jour, un monsieur est venu apporter des chansons. Et on l'a écouté, on était en train de dîner ensemble. Et puis, il venait... Patachou a pensé qu'il venait là pour auditionner, comme pas mal d'artistes venaient là pour auditionner, pour passer dans ce cabaret. Et puis elle lui a conseillé de se mettre sur le petit podium qu'il y avait au fond de la salle. Et il a dit, moi, vous savez, j'ai pas l'habitude, je préférerais venir chanter devant vous. Là, nous, on était en train de dîner. C'est-à-dire l'orchestre qui accompagnait Patachou à cette époque-là, le personnel de la boîte, enfin, tout le monde, on était à peu près une bonne quinzaine. Et puis Brassens s'est amené avec sa chaise, avec une chaise qu'il a prise, et puis il s'est assis devant nous. Et dès la première chanson, on a tous posé les fourchettes, bien sûr. C'est incroyable, on nous foutait vraiment des coups de poing dans la figure. Et puis il a chanté comme ça pendant deux heures et demie. Il en chantait tout le temps. C'est-à-dire que Brassens, quand il a commencé, voyez-vous, quand il a commencé à être reconnu, puisque c'est comme ça que ça a commencé, Patachou lui a dit, vous savez, demain vous commencez, mon vieux, il n'y a pas de problème, vous commencez. Brassens lui a dit, mais je ne suis pas venu pour chanter, je suis venu pour vous apporter des chansons, vous apporter... des chansons que vous pourriez chanter. Il lui dit, je vais en chanter tout de suite. Dès demain, je vais en chanter de vous. Mais dès demain aussi, vous allez chanter des chansons. Et c'est quand même un peu grâce à Patachou. Si Brassens a été propulsé sur une scène, voyez-vous, je ne dis pas que c'est grâce à Patachou que Brassens a été connu, mais j'avoue qu'elle a fait énormément pour que les gens viennent écouter Brassens.
Georges Brassens, 1974.
J'ai commencé à passer en public à l'âge de 31 ans, à l'âge où quand même... On commence à être... Les rameaux sont moins flexibles, vous voyez. Je n'étais pas préparé psychiquement à passer devant un public, à demander tous les soirs à des tas de gens leur opinion sur ce que je faisais. J'étais préparé à leur demander cette opinion indirectement, vous voyez. Ce qui fait que quand on m'a bombardé, quand on m'a jeté en public un soir chez Patachou, je ne regrette pas du reste, mais quand on m'a jeté en public, j'ai été un peu... Il m'a fallu assez longtemps pour sortir de ma coquille. Et je dois dire quand même que le public ne m'a pas tellement aidé au début. J'avais 50% de gens qui étaient violemment contre et 50% qui étaient violemment pour aussi. Mais évidemment, j'avais une tendance fâcheuse à être plus influencé par ceux qui étaient contre que par les autres. Alors je me repliais sur moi-même, c'était normal ça. Jacques Grélot m'avait déjà fait passer une fois à Paris au Lapin Agile et une autre fois à l'Écluse, mais ce n'étaient pas les mêmes chansons. Et puis je les avais chantées d'une manière telle... Je les avais vraiment chantés à voix basse, la tête enfoncée dans ma guitare. Personne n'avait rien entendu, personne ne s'était aperçu de rien. Je pense que si j'avais pu chanter ces chansons comme je les ai chantées quelques temps après, ça aurait attiré quand même l'attention de ceux qui étaient là ce soir-là. Puisque chez Patachou, immédiatement, il s'est produit quelque chose.
À la Villa d'Est, en 1953.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du camp, dira-t-on. Avec impudeur, ses commères lorgnaient même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvre, on ne sait pourquoi, je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit, c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné, j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie, criait éperdu, nom de nom. C'est assommant car mon gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fit feu des deux fuseaux. Car au gorille, celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fuir prouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Car au gorille, le monde se précipite hors d'atteinte du Saint-Jean-Ruth, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadrumane accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Car au gorille, bas soupirait la centenaire qu'on put encore me désirer. Ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Car au gorille, supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est, j'en suis convaincu, la vieille qui sera l'objet de mon choix. Car au gorille, mais par malheur si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors au lieu d'opter pour la vieille comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Car au gorille, la suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Car au gorille.
Patachou, en 1958.
La première impression que m'est faite Brassens, on va la situer très rapidement. J'ai des amis qui sont à l'hebdomadaire Match. L'un s'appelle Pierre Galante et l'autre s'appelle Roger Théron. Et Pierre Galante me téléphone un jour en me disant qu'il avait eu l'occasion de rencontrer un garçon qui, selon lui, avait un énorme talent, personnalité assez sensationnelle, que cet homme était dans un moment difficile, pécuniairement très démuni. Et se demandant comment on pourrait faire pour l'aider, car il était un homme de qualité. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, il a des textes de chansons, chansons qu'il écrit lui-même, paroles de musique. Il serait bon que vous puissiez l'entendre et qu'éventuellement vous puissiez chanter quelques-unes de ses chansons.
À Paris, dans chaque faubourg, le soleil de chaque journée fait en quelques destinées éclore un rêve d'amour.
Un soir, après mon spectacle, il était 1h du matin, 1h30, sur la butte Montmartre, dans ma maison, je vois arriver Pierre Galante et Roger Théron, accompagnés de ce personnage que vous connaissez maintenant. On s'est habitué au physique de Brassens. Nous nous y sommes tous habitués.
Absolument, oui.
Le public s'y est habitué aussi. Ouais, il est indéniable que quand ce monsieur entre sans qu'on soit averti, ça fait même une impression assez étonnante. Une espèce de colosse avec ses cheveux abondants et trop longs, cette moustache qui lui barre la figure. Et qui ne lui viendrait jamais à l'idée d'y toucher, parce qu'il ne saurait pas comment on fait. Pour les cheveux, il sait se soigner, les cheveux.
Ah, comment il fait?
Eh bien, il allume une bougie, et puis il met le feu à ses cheveux. Et quand il pense qu'ils ont assez brûlé, il éteint. Alors, c'est comme ça qu'il les coupe, ses cheveux. Je lui dis alors, est-ce que vous voulez me chanter quelques-unes de vos chansons? Oui, marmonne dans la moustache. Et alors, il accorde la guitare péniblement, fait du bacard avec sa guitare, il engueule sa guitare. Et il commence. Nous nous taisons tous. Et il chante. Mais il chante La mauvaise réputation, qui situe le personnage. Et alors après, il me chante toutes les autres. Il se détend petit à petit. Alors il commence à tout nous montrer, toutes ses chansons. Alors, je lui dis donc que ses chansons étaient très belles et que j'aimerais en chanter. Et je dis que, par exemple, j'allais chanter Les Amours du Grand Public, sûrement, que j'allais chanter Brave Margot, sûrement, J'ai rendez-vous, mais les autres chansons, La mauvaise réputation, Le Fossoyeur, Corne de Rock, Le mauvais sujet repenti, c'est à vous tout seul, je lui dis. Il faut que ce soit vous qui les chantiez. Oh non, dit-il, c'est pas possible. Et en effet, c'était la dernière chose à faire avec un être comme celui-là, c'était précisément de le flanquer comme ça, en pleine lumière.
De l'abandonner.
De le flanquer comme ça en pleine lumière. Ça. Brassens, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. C'est un taureau qui était dans l'obscurité tout le temps. Et si on le poussait comme ça, dans la lumière des projecteurs, cet homme-là diminuait de moitié, était perdu, affolé, l'impression d'être cerné. Et il avait honte d'être en pleine lumière. Alors ce qu'il fallait essayer, c'est de lui donner, si vous voulez, l'habitude. Simplement l'habituer, petit à petit, à ce qu'il entre en contact avec le monde.
Maman, maman, en faisant cette chanson, maman, maman, je redeviens petit garçon. Alors je suis sage en classe, et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places. Ton désir, maman, maman, je préfère à mes jeux fous, maman, maman, demeurer sur tes genoux, et sans un mot dire, entendre tes refrains charmants. Maman, 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 maman.
Papa, papa, en faisant cette chanson, papa, papa, je redeviens petit garçon, et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Papa, papa, il n'y eut pas entre nous, papa, papa, de tendresse ou de mots doux. Quand on s'aimait bien qu'on ne se l'avoua pas. Papa, 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 papa.
Maman, papa, en faisant cette chanson, maman, papa, je redeviens petit garçon. Et grâce à cet artifice, enfin je comprends le prix de vos sacrifices. Mes parents, maman, papa, toujours je regretterai, maman, papa, de vous avoir fait pleurer aux temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas. Maman, papa, maman, papa.
Georges Brassens, 1969.
Quand on écrit, on aime bien avoir un écho chez les autres. J'en ai souffert, mais sans trop quand même. J'étais assez fort, j'étais quand même capable d'aimer mes trucs tout seul. Mais j'ai quand même eu besoin à un moment, à ce moment-là, au moment où le succès est arrivé, si vous voulez, au moment où le public a commencé à s'intéresser à mes chansons, j'en avais quand même besoin, sinon je serais arrêté d'écrire.
Vous aimiez vos trucs tout seul, bien sûr, mais il a fallu que quelqu'un d'autre les aime et vous donne le petit coup de pouce pour pouvoir être connu.
Oui, un grand coup de pouce, c'est Patachou qui me l'a donné. Oui, ça, sans elle, je me demande même si j'aurais jamais chanté. Parce que déjà, à cet âge-là, à 30 ans, je commençais à me désespérer, à désespérer un petit peu. Patachou m'a pris quelques-unes de mes chansons, m'a littéralement poussé en scène. Et rester là avec moi pendant que je chantais mes chansons, je lui dois beaucoup. Je devais aussi beaucoup à Jacques Grélot, qui lui m'avait donné ma première guitare et qui avait essayé de me faire chanter à droite et à gauche, mais ça n'avait pas marché.
je dois beaucoup de choses à ces deux personnages, la Grélot et la Patachou.
Françoise Giraud.
J'ai vu Georges Brassens sur scène tout à fait au début des années 50. C'était dans un cabaret que tenait Patachou et quelqu'un m'a dit, je ne sais pas qui, il y a un chanteur qui a débuté chez Patachou et ça vaut la peine d'aller l'écouter. Et c'était Brassens. Mais c'était quelque chose de très neuf dans le style. Il ne ressemblait à personne, il n'y avait pas de chanteur, il n'y avait pas d'homme de variété qui ait ce type de répertoire, qui ait cette allure comme ça de paysan, dans le meilleur sens du terme paysan, pas du tout péjoratif. C'était un paysan, il était avec les pieds bien sur la terre. Il n'avait pas une très jolie voix, enfin, il ne charmait pas par la voix. Mais ses textes étaient très, très drôles et plein de charme. Personne n'a fait des chansons comme Brassens. Moi, une chanson de Brassens que j'adore, ou une expression, je ne sais plus, c'est celle de 14, c'est celle que je préfère. C'est merveilleux. Alors, c'est à la fois anarchiste, moqueur, c'est de la dérision. Mais c'est une dérision qui n'a pas la méchanceté de la dérision d'aujourd'hui. Ce n'était pas méchant. Brassens a été très bien accueilli. Mais je me souviens avoir écrit sur lui un article à ce moment-là. Dès qu'il paraît en public, son corps se dérobe. Il est bientôt couvert de sueur, une sueur qui tombe en larges gouttes jusque dans ses yeux. Alors il s'ébroue, furieux. Il chante tête baissée, buté, lourd, blême sous son casque de boucles noires. Noir aussi dans son visage un peu mou, deux flaques douces, tristes, les yeux où se réfugie tout ce que ce grand gars de 33 ans a conservé de l'enfance. En scène, il ose à peine les montrer. Il est visiblement malheureux de s'exhiber. « Ça m'emmerde, dit-il, avec une intense conviction. »
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerre notoire, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'osent pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
Paul Touraine, des Frères Jacques.
La première fois que nous avons été mis en rapport avec Georges Brassens, on connaissait son existence, parce que dans les cabarets, tout savait, puis très vite, on savait que chez Patachou, il y avait un type qui avait des chansons extraordinaires, qui avait une présence extraordinaire, et qui écrivait pour Patachou. Et Patachou, qu'on connaissait bien, nous a fait connaître Georges. Et Jacques Canetti, qui était sur l'affaire, nous a fait faire la première tournée de Georges Brassens. Il n'était jamais parti en tournée comme ça. Alors, on a fait une petite tournée avec Patachou, mais lui accompagnait la tournée, mais ne chantait pas.
Georges Brassens, 1958.
Mais est-ce que c'est vrai qu'il fallait vous pousser en scène ?
Pas tout à fait, mais enfin, il fallait me...
Bousculer un peu.
Oui, me bousculer un peu gentiment.
Mais vous aviez le trac ou quoi ?
Le trac, oui, peut-être, une espèce de timidité, de pudeur. C'est un peu gênant de voir tant de monde parler.
Vous n'y êtes pas encore habitué ?
Maintenant, j'y suis encore habitué, mais je suis resté pudique.
Mais c'est-à-dire que, par exemple, au moment de saluer, vous vous en allez ?
Oui, parce que ça ne va pas bien avec mon corps. J'ai un gros corps énorme, alors je ne peux pas me plier facilement.
Puis alors, vous buvez un verre d'eau aussi, de temps en temps, sur
oui,
le...
parce que je transpire et parce que j'ai la gorge sèche. Tous les chanteurs font ça.
Paul Touraine.
On disait beaucoup de choses, beaucoup de compliments, beaucoup de choses pertinentes sur lui. Et c'était surtout avec Jacques Canetti, qu'on fréquentait, qui nous manageait un peu tous. L'écurie Canetti était importante. Canetti, il débordait pas de compliments, si vous voulez. Mais quand Canetti faisait un compliment, c'était que c'est vraiment extraordinaire. Un jour, je suis allé chez Canetti pour régler des problèmes de tournée. Ou d'éclairage, et en partant, il ouvre un tiroir et m'a dit « Vous connaissez ça ?» J'ai dit non, et j'ai regardé, il y a une pile de dossiers, et sur le dessus, il y avait J. Brel. « Non, je connais pas. » Il m'a dit « Vous allez voir bientôt. » Hop, et il a refermé son tiroir.
Voir le nombril de la femme d'un flic n'est certainement pas un spectacle qui, du point de vue de l'esthétique, puisse vous élever au pinacle. Il y eut pourtant dans le vieux Paris un honnête homme sans malice, brûlant de contempler le nombril de la femme d'un agent de police. Je me fais vieux, gémissait-il, et durant le cours de ma vie, j'ai vu bon nombre de nombrils de toutes les catégories. Nombril de femme de croque-mort, nombril de femme de bougnate, femme de jocrisse. Mais je n'ai jamais vu celui de la femme d'un agent de police. Mon père a vu, comme je vous vois, des nombrils de femmes de gendarmes. Mon frère a goûté plus d'une fois de ceux des femmes d'inspecteurs les charmes. Mon fils vit le nombril de la souris d'un ministre de la justice. Et moi, je n'ai même pas vu le nombril de la femme d'un agent de police. Ainsi gémissait en public cet honnête homme vénérable, quand la légitime d'un flic tendant son nombril secourable, lui dit « Je m'en vais mettre fin à votre pénible supplice. Vous faire voir le nombril enfin de la femme d'un agent de police. Alléluia, fit le bon vieux de mes tourments, voici la trêve. Grâce soit rendue au bon Dieu, je vais réaliser mon rêve. Il s'engagea tout attendri sous les jupons de sa bienfaitrice. Braquer ses yeux sur le nombril de la femme d'un agent de police. Mais hélas, il était rompu par les effets de sa hantise. Et comme il atteignait le but de 50 ans de convoitise, la mort, la mort, la mort le prit sur l'abdomen de sa complice. Il n'a jamais vu le nombril de la femme d'un agent de police.
Georges Brassens, 1962.
Il est arrivé à des tas de gens d'aller dans les lunes, des gens que je connais, des types qui, croyant, par exemple, aller et à leur travail, partaient avec leur poubelle. Ils avaient oublié de la poser en route. Moi, ce n'est pas ça qui m'est arrivé, mais je crois que la fois où j'ai été le plus dans la lune, c'est à mes débuts quand je chantais chez Patachou. Un jour, j'ai oublié d'annoncer le titre de mes chansons. J'étais dans la lune, ce jour-là, je l'ai complètement oublié. Et ça a entraîné des conséquences assez fâcheuses, puisque depuis ce temps-là, je n'ai jamais plus dit le titre de mes chansons.
Angèle Guller, Belgique, 1963.
Au début de sa carrière, alors qu'il éprouvait une véritable angoisse au moment de se présenter devant le public, Georges Brassens a scandalisé beaucoup de gens, ne fût-ce que parce qu'il entrait et sortait de scène sans saluer, et aussi pour cette manière bien à lui qu'il avait de mettre le bonnet rouge à son vieux dictionnaire. Il a fallu que le temps passe pour qu'il soit admis, pour qu'il soit compris, pour qu'il soit aimé. Je suis loin de prétendre que le gorille hécatombe où les trompettes de la renommée sont conçues pour de jeunes oreilles, mais je demande qu'on veuille bien y déchiffrer le vrai message d'un poète libertaire, d'un homme libre qui ne fait figure d'anarchiste que par son refus des conventions, des préjugés, des idées toutes faites, des tabous.
André Tilleux, écrivain, ami de Belgique de Georges Brassens.
La première fois que j'ai entendu une chanson de Brassens, c'était dans un bistrot. C'était en 1950, fin 53 ou début 54, et dans le jukebox, il y avait la mauvaise réputation. Moi, j'avais abandonné la chanson, je m'occupais plus que de jazz. Puis j'ai entendu un type qui avait des mélodies particulières, une sorte de mélodie qui venait du fond des âges et qui était repassée par l'imagination d'un personnage. Et surtout, c'était écrit. La première fois que j'ai vu Brassens en spectacle, je crois que le cours de mon sang a été modifié. Mais il a vraiment, vraiment, j'ai été terriblement... J'ai pas été seulement impressionné, j'étais emballé, j'étais enthousiaste, j'en parlais à tout le monde, je voulais parler que de ça. Si j'étais dans un train, je parlais de Brassens, j'essayais d'expliquer ce qu'il faisait de nouveau. Ça n'avait rien à voir avec le musical d'hier, le musical de papa. J'essayais de convaincre, parce que quand on a une telle passion, il faut la partager. J'ai vu un personnage qui ne se comportait pas comme tout le monde. Un homme qui, en révélant son univers, me révélait une partie du mien. C'était en ancienne Belgique, à Bruxelles. Oh, vous savez, il y avait des gens qui partaient. Hein. Quand un gros mot était prononcé par Brassens, il y avait des dames qui quittaient la salle d'un petit derrière-pincé. On était très hypocrites à l'époque. On est encore maintenant. On l'est différemment maintenant. Mais à ce moment-là, les anciens combattants, des militaires de carrière, des gens qui quittaient la salle avec leur famille. Mais nous, ça nous faisait triompher, on était heureux, c'était notre bataille d'Hernani. On triomphait, il y avait quelqu'un, non seulement nous on l'aimait, mais encore il y avait ce qu'on appelait des cons qui ne l'aimaient pas. On était ravis. Je me souviens des critiques, mais je me souviens surtout des journaux qui interdisaient qu'on en parlât. Toute la presse catholique en Belgique avait interdit qu'on parle de Brassens.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
1967, anniversaire de la salle des Trois Baudets. Brassens, Brel, De Vos, Canetti.
Jacques Canetti, vous avez réuni tant d'amis autour d'une table tellement sympathique que j'aimerais que vous m'en parliez vous-même. Dites-moi pourquoi nous sommes tous ici et puis aussi qui il y a.
Nous sommes tous ici parce qu'il est aujourd'hui le 16 décembre 1967. Or le 16 décembre 1947 s'ouvrait un théâtre, un petit théâtre à Montmartre qu'on appelait le théâtre des Trois Baudets, qui a ouvert ses portes à beaucoup d'artistes, et tous ces amis que vous voyez ici sont ceux qui sont passés au théâtre des Trois Baudets, qui ont en quelque sorte apporté aux Trois Baudets le lustre de leur talent.
On a rarement vu autour d'une table et presque au centimètre carré autant de visages célèbres depuis presque 20 ans, n'est-ce pas, Georges Brassens?
Oh ben, il en manque quand même. Enfin, en face de moi, là, je vois Brel, je vois Yves Robert, Davos, Marliche, Seffer, enfin, plein de gens qui ont débuté aux Trois Baudets, quoi. Pour moi, ça devait être en 52. Je crois que Jacques Brel aussi, c'était à peu près dans cette période.
Et comme il est très difficile de faire une conversation à plusieurs, parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous, j'aimerais que vous me racontiez, vous, Georges Brassens, quelques souvenirs de 1952.
On était des gens qui étaient passionnés de chansons et qui ne pensaient qu'à ça.
Et puis vous n'étiez pas riche.
Ah non. On n'était pas pauvres non plus. Je pense on s'en foutait, quoi. On aimait les chansons. On manquait de rien, vous savez. On manquait de rien. Moi, en ce temps-là, je ne
manquais de rien.
Mais vous aviez besoin de rien. Oui, j'avais l'espoir que mes chansons arriveraient à atteindre certaines personnes.
Il faut dire que c'était une époque où la chose était artisanale. Et que maintenant, la généralité, enfin en général, tout est tombé dans l'industrie. Ce n'est pas à cause, c'est le mouvement démographique d'une part et économique d'autre part. Et tout est tombé dans l'industrie alors qu'avant, tout était pratiquement, je crois que M. Caletti sera de mon avis, était artisanal. Il y avait autrefois, le cœur pouvait remplacer, pouvait pallier à certaines déficiences économiques. On est bien d'accord aussi.
Absolument.
On avait le droit, il y a 15 ans ou 20 ans, tout individu avait le droit d'aller d'échec en échec, mais en souriant. Actuellement, il est très difficile d'aller d'échec en échec en souriant. C'est devenu le temps est devenu un peu plus angoissé, enfin, pour tout ça, n'est-ce pas? J'espère que Georges et Raymond sont de mon avis.
Oui.
Et le regret qu'on a finalement de tout ça,
oui,
le regret qu'on peut avoir de tout ça, c'est l'absence justement de ce côté un peu amateur. Il faut bien le dire. On pouvait à l'époque, les gens, même des vedettes, qui étaient au Baudet, parce qu'il y avait des grandes vedettes au Baudet. Moi quand j'y suis passé, j'ai débuté, j'étais numéro 1, j'ai fait quand même 4 ans numéro 2, je crois, ou numéro 3, enfin, des choses comme ça. Mais la tête d'affiche, ce qu'on appelle la tête d'affiche, pouvait se tromper. On avait le droit de se tromper. Moi, j'ai vu des têtes d'affiche se tromper complètement dans un tour de chant. On est bien d'accord. Actuellement, il n'est plus question de se tromper totalement dans un tour de chant. Vous êtes bien d'accord aussi. C'est devenu industriel. C'est un peu dommage. Et peut-être que c'est bien pour les gars qui vont venir après. Enfin, c'est très bien tout ça.
Il faut rendre cette justice à Canetti, qui a sans doute d'autres défauts. Mais il avait cette qualité quand il avait confiance en un artiste. L'artiste pouvait se payer le luxe de n'avoir pas de succès pendant X temps, pendant 6 mois.
Moi, je compte que la mise au monde d'une vedette à l'époque était de 3 ans. Et si quelques-uns ont été plus rapidement vedettes que les 3 ans réglementaires, certainement les 3 ans ont permis à tout le monde de prendre racine, c'est-à-dire d'avoir des racines réelles avec le public.
Finalement, tous les gars qui étaient au Trabaudet étaient fous de joie le soir, ayant rempli pendant 4, 5, 6 ou 10 minutes la fonction qu'ils rêvaient de remplir, rentraient chez eux et avaient un billet de 1000 francs en poche pour manger. Oui, mais enfin, ça correspondait à un cadeau. Ça correspondait à un cadeau. Ce n'était pas un dû. Moi, j'avais l'impression, tous les soirs, ayant chanté mes 3 conneries, j'avais l'impression qu'on me faisait un très joli cadeau. On me laissait chanter et on me donnait 1000 balles. J'étais un homme heureux. C'était pas encore une industrie.
Je crois que c'est ça. Nous, on pensait vaguement qu'on pourrait peut-être un jour vivre de ce que nous faisions, mais enfin, c'était pas pour ça que nous le faisions. Et effectivement, comme il y a des tas de gens finalement qui sont prêts à payer pour chanter, et il y a des maisons d'ailleurs qui paient pour que des gens chantent, on considérait que le fait d'être payé, c'était presque une extravagance.
1953.
On est chassés par ces mecs. Elle avait la taille faite autour, les hanches pleines, et chassait le mal aux alentours de la Madeleine. À sa façon de me dire, mon rat, est-ce que je te tente? Je vis que j'avais affaire à une débutante.
Laver le don, c'est vrai, j'en conviens, laver le génie. Mais sans technique, un don n'est rien qu'une sale manille. Certes, on ne se fait pas putain comme on se fait nonne. C'est du moins ce qu'on prêche en latin à la Sorbonne. Me sentant rempli de pitié pour la donzelle, je lui enseignais de son métier les petites ficelles. Je lui enseignais le moyen bientôt faire fortune en bougeant l'endroit où le dos ressemble à la lune. Car dans l'art de faire le trottoir, je le confesse, le difficile est de bien savoir jouer des fesses. On ne tortille pas son popotin de la même manière pour un droguiste, un sacristain, un fonctionnaire. Rapidement instruite par mes bons offices, elle m'investit d'une part de ses bénéfices. On s'aida mutuellement, comme dit le poète. Elle était le corps naturellement, puis moi la tête. Un soir, à la suite de manœuvres douteuses, elle tomba victime d'une maladie honteuse. Lors en tout bien, toute amitié, en fille propre, elle me passa la moitié de ses microbes. Après des injections aiguës d'antiseptiques, j'abandonnai le métier de cocu systématique. Elle eut beau pousser des sanglots, brère à tue-tête, comme je n'étais qu'un salaud, je me fis honnête. Sitôt privée de ma tutelle, ma pauvre amie courut essuyer du bordel les infamies. Paraît qu'elle se vend même à des flics. Quelle décadence, y a plus de moralité publique dans notre France.
Patachou en 1954.
Quand vous savez, Georges Brassens est un personnage tellement extravagant, tellement curieux, tellement complet, tellement incomplet aussi, à certains égards, qu'il est, il est difficile d'en parler parce que on en dirait trop ou on n'en dirait pas assez. Il est un homme qui sort du cadre. Il est un poète d'une authenticité indéniable. Il a ce côté mystérieux qu'ont les enfants aussi. Il a ce côté impénétrable qu'ont les arbres. Il est à la fois un petit bébé, hein. Et un château fort, vous voyez, c'est très curieux.
Et elle m'a dit, ce jour-là, quand on l'a quitté, elle m'a dit, écoutez, dans un an, votre copain sera aussi connu que moi.
Dans cette émission, vous avez entendu dans l'ordre un petit coin de parapluie, une jolie fleur, les amoureux des bancs publics, le gorille, Maman, Papa en duo avec Patachou, La guerre de 14-18, Le nombril des femmes d'agent, Le temps ne fait rien à l'affaire et Le mauvais sujet repenti. J'ai rendez-vous avec vous, une coproduction de la communauté des radios publiques de langue française de Monique Giroux et Martine Jessop, Radio-Canada, Gérard Vallet, RTBF, Jacques Donzel, Radio Suisse Romande, Fabienne Chauvière, France Inter, avec Janine Marc-Peset et Rebecca de Nantes, une réalisation de Marianne Crimbaud.